L'expérience commence. Nous sommes à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, avec les Dames d'Isis. Elles ont entre 67 et 84 ans. Elles ne sont pas prêtes à réduire leurs espaces de vie alors que leur âge avance. Ce qu'on leur propose pour vieillir ne leur convient pas. Elles ont décidé de rester autrices de leur vie. Il y a plus de 10 ans, Ginette s'est mise en tête de vivre avec ses amis dans un habitat coopératif. Un groupe s'est constitué en 2016 et leur nouvelle maison a failli exister. Et puis, tout a bloqué. Elles ont décidé de ne pas lâcher la joie, de ne pas laisser entrer la fatigue. Stéphane Mercurio va à la rencontre des dames de la maison d'Isis, bien décidée à résister pour penser d'autres façons de vieillir et d'habiter. La réalisation est signée Laure-Hélène Plancher.
J'ai changé d'air. Hein. Alors, vous savez ce que j'ai pris ? Aux marches du palais.
Pour l'instant, on n'a que les marches.
Voilà.
Et encore.
À la maison d'Isis, à la maison d'Isis.
On prend la suite.
Il y a tant de dames là, il y a tant de dames.
On reprend.
Elles ont tout tenté. Pour avoir un toit ensemble là.
Aux quatre bailleurs du coin.
Elles ont donné leur plan. Les vieux, on leur répond pas.
Bravo. Qu'est-ce qu'il veut que de bouger?
Les Dames d'Isis ou comment échapper à l'EHPAD. Par Stéphane Mercurio et Laure-Hélène Plancher.
Donc on a un patio au rez-de-chaussée et à l'étage un jardin suspendu. Et les logements seront tout autour, en forme de U. Donc ça nous fait un petit cocon, en quelque sorte.
Moi, je vous ai rencontré à ce moment-là.
Oui, c'était vous bien avez... parti à ce moment-là. Oui,
vous étiez euphorie.
Tout à fait. Au début, le premier projet qu'on a fait avec le bailleur social...
Tarn-et-Garonne Habitat.
C'était ça. On nous avait dit, il vous faut imaginer pour créer, pour innover, vous rêvez. Alors, on nous a poussé à rêver. Les architectes qui ont fait le projet en ont rajouté, ce qui fait qu'on avait un projet mirifique avec des chambres d'amis, des buanderies, une salle de bien-être, un jardin suspendu. Il y avait des logements sociaux, il y avait des étudiants, il y avait une grande mixité dans ce projet qui a duré 4 ans.
Oui, quand ils ont aligné les chiffres, ils se sont rendus compte qu'ils nous avaient quelque peu... promis l'impossible. Oui.
On ne pouvait que rêver. Tout le monde était ébahi parce que mais c'est magnifique, mais vous avez une chance folle. Donc on disait super, très bien. Et puis la déconvenue est arrivée. C'est au fur et à mesure de l'année 2019 que les choses ont commencé à régresser, mais vraiment régresser. On n'en parle plus, on ne parle plus de la maison d'Isis quand on va au vœu du bailleur. Tiens, bizarre, avant qu'on était sur le piédestal, on était toujours mis en avant. Là, on n'en parle même plus. Qu'est-ce qui se passe? Et il a fallu qu'on arrive juste avant le confinement pour qu'on nous dise « Votre projet est trop cher, on n'arrive pas à trouver les budgets, donc on ne pourra pas le faire. » Et donc, ils se sont rendus compte que le projet était pharaonique et qu'il fallait redescendre sur Terre.
Et comme on y a cru, on a été un petit peu beaucoup naïfs. Puis après, on est tombé, ça a fait mal.
On descend sur le premier projet,
sur le
côté de la gare.
Premier projet qui était situé en face de la gare et qui a échoué.
C'est le lieu où on a tant rêvé.
Oui,
pendant
on nous
4
a
ans.
Demandé de rêver pendant 4 ans. On nous a... mis en tête que nous allions y aller, et puis non seulement mis en tête, mais le fait qu'on avait les plans et que chacune avait travaillé sur les plans de son appartement faisait que quand même, en dehors du rêve, on toucher la réalité. Hein. Donc de ce fait, eh bien, on est tombé quand même de la chaise. Hein.
Et après le Covid, on en a profité pour faire le tour des rues autour de chez nous pour voir s'il n'y avait pas des bâtiments à vendre, s'il n'y avait pas à prospecter.
L'appareil photo en bandoulière.
Combien il y a eu de tentatives en fait?
Il y a eu Chamy, le fort. Il y a eu le promoteur. Il y a eu la dame aussi, oui, un peu les chalets. La dame qui voulait faire des logements aussi à la lande là-bas, au moins 5, oui. Et même cinq. Monsieur qui nous avait proposé des logements là au bord du Tarn. Oui. On n'a plus signé de vie d'ailleurs.
Oui.
Et maintenant.
Il y en a une.
Voilà. On a visé
ça
une
fait
autre.
7.
Ouais.
Ça fait 7.
Ouais.
Et on repasse sous le pont des Consuls, donc qui est près du théâtre. Olympe de Gouges. On habite à Montauban, mais c'est peut-être pas pour rien, parce qu'il y a quand même Olympe de Gouges qui, pendant la Révolution, en tant que femme, s'est bien fait connaître.
C'est elle qui a écrit les déclarations des droits de la femme.
Oui, elle était à Montauban. Oui. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est aussi révolutionnaire, quelque part.
Oui, mais jusqu'au bout, parce qu'elle a fini à l'échafaud.
Oui.
Vous allez peut-être finir à l'échafaud.
Eh oui, c'est ça. Faudrait quand même pas finir comme Olympe de Gouges, ça sera embêtant. Oui. C'est pour assister à un cours de gymnastique.
Je sais pas, il faut payer, hein, on vous l'a dit. On se fait le bisou.
Bah oui.
Allez, on commence. Alors, comme d'habitude, on fait attention. Dès qu'on sent une douleur, on arrête. Alors, on commence par un balancé tranquille. Alors, on y va. Un. Alors, bien pensé, les jambes dans le prolongement des hanches. Vous sentez bien la voûte plantaire bien collée au sol, parce que ça, c'est utile dans la vie pour l'équilibre. L'attention et l'intention.
Bon, tu te sens comment après cette petite gym?
Eh bien, faut dire que c'est très agréable, hein, sur la terrasse. Hein. C'est bien, puis avec les copines aussi. Hein. Alors, on commence la séance, on boit un café, on refait le monde, parce qu'il y a du boulot en ce moment. Et puis après, on passe à la gym.
Vous avez refait quoi alors ce matin?
Alors, dans le monde qu'on a refait, on a fait surtout pour que localement, notre projet soit pris en compte. Et que les gens comprennent, enfin, les personnes intéressées, c'est-à-dire la mairie, les services compétents, Tarn-et-Garonne Habitat, et tous ces services qui, au départ, se montraient très intéressés par notre projet, tout. Et je crois qu'ils n'ont pas senti la valeur que ça avait pour nous et que ça pouvait avoir pour la ville. Et nationalement aussi, cette prise en compte des désirs et surtout des besoins des personnes comme nous. Parce que pour le moment, on arrive à bouger, à être chez nous et tout. Mais après, ça serait tellement chouette que l'on puisse être les unes à côté des autres, se sentir proches et en sécurité. Moi, je suis quelqu'un d'assez indépendant, d'ailleurs, mes problèmes de vue, ça a été un peu dur. Bon, maintenant, je fais avec, j'ai pas le choix, hein, et je m'adapte.
Et les problèmes de vue, tu les as depuis quand?
Alors, ils se sont vraiment accentués il y a 2-3 ans. Moi, je suis dans un brouillard perpétuel. Alors, j'ai la chance d'avoir mes bras secourables, c'est-à-dire que je téléphone. J'ai toujours une copine qui va m'accompagner à un endroit ou à un autre, faire le marché. Sylviane, par exemple, m'accompagne au supermarché, on va faire les courses. Madeleine m'accompagne chez un spécialiste si j'ai besoin. Ginette aussi, Marie-France. J'ai la chance d'être très très bien entourée.
Tu veux bien te présenter?
Alors, je m'appelle Huguette Strépeau, j'ai 77 ans. Et bon, je vis dans ma maison. Voilà, et je connaissais Madeleine parce qu'avec Madeleine, on est toutes les deux versées sur un versant littéraire. Alors, ben, la rencontre avec la maison d'Isis, ça a été par Madeleine, parce qu'elle m'a parlé de ce projet et je suis allée voir. À peu près en 2016, quand ça a commencé. Avant, j'étais éducatrice spécialisée avec des enfants infirmes moteurs cérébraux.
Qu'est-ce qui te fait rêver ?
Ce qui me ferait rêver, c'est que la maison d'Isis aboutisse. Ou du moins, une possibilité de se retrouver ensemble, même si on n'a pas tout ce que, au départ, on avait souhaité. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi que je ne peux pas lire, mais j'ai la chance d'avoir Victor. Alors, est-ce que vous connaissez Victor ?
Non.
Ah, alors je vais vous le présenter. Alors, il va parler, Victor, hein ? Enfin, Victor, tu viens ?
Bienvenue à Victor Reader.
Je vais vous mettre un petit peu le livre de...
Devenir, de Michelle Obama. Conséquences aux prochaines élections. À ma grande consternation, il ne bousculait jamais personne. Aux yeux de mon père, le temps était un cadeau que vous faisiez à autrui.
Moi, c'est Ginette, j'ai 76 ans. Je vis à Montauban où je suis née. Mes enfants sont loin, l'une à Marseille, l'autre dans le Gard. Je suis veuve. Je n'ai pas de frères et sœurs parce que j'étais fille unique. J'ai passé pas mal de temps de ma vie à militer dans des associations, même en politique à un moment. Je travaillais aux impôts. Je travaillais aux impôts à une époque où on avait la notion de service public. On essayait d'aider les gens, de se mettre à leur portée. En 2010, j'ai commencé à penser, bon, j'étais seule, mes enfants étaient loin, puisque mon mari était décédé en 2003. Et j'avais des copines qui étaient seules aussi. Et je me suis dit, c'est bête de rester chacune chez soi, est-ce qu'on ne pourrait pas se rapprocher pour vivre ensemble ? Donc j'ai vu avec des copines surtout militantes ou les plus proches au début. Et puis, alors j'avais commencé à écrire un livre, j'avais mis la maison d'Isis, parce que Isis, c'était le nom qu'on avait donné à une petite chienne, parce que Isis, c'était la déesse qui avait rassemblé les os épars de son mari. Alors mon mari avait dit, bon, rassembler des os pour un chien, c'est ce qu'il faut. Et moi j'ai repris l'idée, parce que rassembler les membres épars pour en faire une unité et quelque chose de vivant, je trouvais que ça s'adaptait bien au projet. C'est parti comme ça. La maison d'Isis aujourd'hui, c'est une belle aventure, mais avec beaucoup d'échecs. Mais ça reste quand même une belle aventure. Au début, on n'était pas très nombreuses, on était 5 ou 6. Et puis le groupe s'est élargi parce que dans les associations où on était, dans l'entourage, ça s'est fait comme ça, de bouche à oreille au départ. Après, on a communiqué un petit peu plus. Et on a été jusqu'à 18 dans le premier projet qui a échoué au bout de 4 ans. À l'heure actuelle, on est 11 futures habitantes. Pour le moment, on n'est que des femmes. On a eu dans le temps un monsieur, on a eu un couple, mais maintenant, on n'est plus que des femmes seules. Voilà.
Et vous avez entre quel âge et quel âge ?
Alors, à l'heure actuelle, on va de 67 à 85 bientôt. J'avais commencé un cahier le 1er juillet 2010.
C'est une belle écriture, hein ? Avec le petit cahier quadrillé.
Ça fait scolaire un peu. Il faut être prête à diminuer son espace de vie et j'ai pour ma part commencé à y songer en essayant de vider le superflu de ma maison. Les vides-greniers, ventes sur Internet, dons aux Emmaüs ou déchetterie pour ce qui n'a plus de valeur sont déjà un bon début. C'est une démarche qui n'est pas facile et que nous n'avons pas à laisser à nos enfants. Il leur en restera suffisamment à faire.
Allora, comincia Maddalena a fare la lettura.
Presentazione. La colomba è il dolce tipico.
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 Della dolcemente perché sennò non va. Alors, Françoise Dodorico, donc j'ai 72 ans et je suis la vice-présidente de la maison d'Isis. J'ai un fils qui a 42 ans et donc je suis divorcée.
deux fois. Et maintenant, je vis seule depuis 8 ans et je suis bien dans ma peau, si je puis dire. Voilà. Après, donc, j'ai travaillé. Ma carrière, c'est principalement au sein de la sécurité sociale et notamment de la caisse d'allocation familiale.
Comment tu t'es embarquée dans cette histoire ?
Alors, je me suis embarquée dans cette histoire parce que je connaissais Ginette. Donc, on s'est retrouvés, surtout au yoga, et avec Madeleine qui faisait beaucoup de conférences sur la philo et tout. Et quand elle a commencé à en parler en 2015-2016, elle m'a dit « Est-ce que ça t'intéresserait de venir pour eux, un habitat participatif entre seniors ?» Alors j'ai réfléchi, puis je me suis dit « Finalement, je suis locataire, je suis dans mon immeuble toute seule, et aller avec les copines, c'est quand même plus intéressant quelque part que de rester toute seule. » Donc j'ai été partante pour aller avec elle et monter ce projet parce que c'était les prémices, hein, il n'y avait rien, il fallait faire les statuts, il fallait faire la charte de vie, il fallait s'inspirer des Baba Yaga. Donc je suis partie là-dedans, ça a été ça le départ. Et puis après, donc, on a mis les unes et les autres ce qu'on savait faire. Moi j'avais fait de la comptabilité, donc j'ai commencé en tant que trésorière. Ensuite est venue Babette, à qui on a passé la trésorerie. Et Ginette m'a demandé si je voulais bien être vice-présidente avec elle, donc, et m'occuper de la communication. Avant de rentrer à la caisse d'allocation familiale, j'avais fait du Tupperware. Alors, le Tupperware, mine de rien, eh ben, il faut réunir les gens. Il faut leur parler, les fameuses réunions Tupperware.
Je croyais qu'il y en avait que dans les films.
Eh ben non, ça existe, tu en as une devant toi. Et si tu veux, je te ferai visiter mes placards, tu verras.
Quelle est l'image de la maison d'Isis ? Qu'est-ce qu'elle véhicule ?
C'est l'image de femmes décidées, de femmes volontaires, et qui veulent arriver à ce but qu'elles se sont octroyées, c'est de pouvoir vieillir ensemble et de vieillir confortablement le plus possible dans un environnement qu'elles ont choisi. Nous, on milite pour ce type d'habitat et tout, parce que les petits et les moyens revenus, ne serait-ce que dans le département, sans aller au-delà, il y a pléthore. Il n'y a pas que la maison d'Isis. Si on regarde le niveau de vie des habitants du département, on peut dire qu'il fut un temps, c'était très bas. Et je pense que ça n'a pas beaucoup changé. C'est un département qui est rural, qui a peu d'industrie, et donc qui est souvent de cité dortoir, donc de Toulouse. On n'a pas quelque chose de vraiment mirobolant. Donc si on arrivait à faire comprendre que c'est ce type d'habitat pour les seniors qui pourrait permettre aux gens de vivre non isolés et de vivre bien leur vieillissement, c'est aussi un des objectifs de la maison d'Isis. Et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est au moins se retrouver ensemble pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir se donner un coup de main, pour pouvoir dire, bon, si t'es malade, je t'apporte les médicaments, ou des trucs comme ça, quoi. Donc, c'est une autre vie qu'on espère avoir et qu'on espère arriver à faire aboutir.
T'y crois ?
Moi, je crois à ce but et je vois derrière que de plus en plus de gens sont intéressés par le projet. Je pense que le confinement a beaucoup aidé donc, dans cette prise de conscience des personnes et l'affaire Orpea, bien sûr, qui est venue cerise sur le gâteau, entre guillemets, mettre encore plus à jour les mauvaises conditions dans un EHPAD.
Moi, je ne veux pas aller en EHPAD. Je ne veux pas. On peut toujours se dire, je ne veux pas. Les retraites des femmes sont inférieures, hein, moyenne. Alors, est-ce que dans le fond, c'est aussi une motivation ? C'est un constructeur social qu'on va chercher. Sinon, tu vas chez des EHPAD de luxe. T'as bien vu tous les scandales.
Donc moi, depuis longtemps, je sais que je ne vais être en charge des enfants. Donc je me disais, il faudrait bien que tu finisses par y aller, si tu vieillis, aller en EHPAD. Et ce projet nous évitait d'aller en EHPAD, parce qu'on est toutes convaincues qu'on sera mieux entre nous que dans un EHPAD. C'est pour ça qu'on continue, qu'on se bat. On connaît, parce qu'on a eu des parents, parce qu'on a eu des amis en EHPAD. On est allé les voir. Bon, et on s'est dit, c'est bien, mais si on peut longtemps rester à domicile, chez soi quand même.
T'en es où alors ?
J'en ai à rien. Sauf qu'on est en train de se dire que on va inventer l'habitat éclaté. Comment être solidaire dans l'habitat éclaté ? Puisqu'on n'arrive pas à avoir un habitat commun.
Et tu sais pourquoi vous n'y arrivez pas ?
Je pense qu'on est mal parti et qu'on est mal catalogué parce que des vieilles emmerdeuses, quoi. Qui empêchent de tourner en rond, qui veulent pas les trucs tout faits, avec les vieux d'un côté et les pauvres de l'autre. Vouloir participer, être acteur de sa vie et pas qu'on nous fasse les trucs tout faits. Voilà.
Je sais que tu as changé depuis qu'on se connaît, maintenant ça fait oui. 3 ans. Tu peux me raconter comment ça t'a changé, cette histoire ?
Oui, j'ai beaucoup changé. Donc au début, je suis arrivée en cours de route. Il y avait un projet magnifique en construction dans un village où on allait vivre une vie de quartier, où chacun avait son appartement. Et puis, on s'est aperçu au bout d'un moment qu'ils n'avaient jamais fait des calculs et ils nous ont tout d'un coup donné le prix des appartements et c'était hors de prix, quoi. En tout cas, la plupart des gens ne pouvaient pas. Dans le projet, quand même, les gens qui avaient le plus de revenus payaient plus. Et du coup, ça permettait à des gens qui en avaient moins de faire participer aussi au projet. Donc, il y avait bien la mixité, je ne dis pas sociale, mais mixité de revenus. Voilà. Et moi, ça m'enthousiasmait, ça. Voilà. Donc, c'est tombé à l'eau parce que le bailleur s'est planté. Et donc, le jour où il a fallu faire les comptes, on s'est aperçu que ce n'était pas possible, quoi. Et ils nous ont emmenés en bateau. Il y a eu le confinement. Donc après ça, ensuite il y a eu un autre projet, mais qui était mirifique aussi, mais un peu moins quand même, voilà. Et pareil, qui n'a pas abouti parce que ce n'est pas possible pour tout le monde, quoi. Ça est toujours ma philosophie, s'il y en a une d'entre nous qui ne peut pas, je ne veux plus participer de ce projet, voilà. Donc tout le monde s'est rallié à ça, hein, de toute façon, voilà.
Parce que sinon vous auriez pu en fait.
Ah, je pense qu'on aurait pu si ceux qui ne pouvaient pas payer ne venaient pas. Oui.
Ça, c'était hors de question.
Ah, pour moi, c'était hors de question. Même pas. Ça faisait partie de l'essence du projet pour moi.
Voilà. Je crois que c'est pour ça que je vous aime, en fait.
Ouais. C'est vrai qu'économiquement parlant, s'il n'y a pas des subventions ou une volonté politique de payer des parties communes, tout ça, c'est pas faisable, concrètement. Alors par contre, la volonté politique aujourd'hui à Montauban, c'est de faire des résidences seniors qui coûtent cher. Et voilà, c'est rentable. Avoir des vieux riches, c'est rentable.
Et là, aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous vivez ensemble ?
Alors aujourd'hui, on se retrouve régulièrement, mais on a eu beaucoup de chance avec le programme Rhapsodia, parce que ça nous a fait réfléchir sur le vieillissement, sur les fins de vie, sur des tas de sujets qui nous construisent. Effectivement, le premier truc, c'est la vieillesse, c'est l'horreur. Bon, je ne devrais pas généraliser, en tout cas, moi, je ne suis pas là-dedans. Pour moi, la vieillesse, c'est une autre partie de ma vie, mais qui est autre, mais c'est être vivante, voilà. Et ça, c'est de plus en plus fort chez moi, ça. Voilà. Et je veux être auteur de ma vie jusqu'au bout, voilà. Mais ça veut dire consentir à ce que je suis, à mon corps, à mon esprit, à ce que je vis, tout ça, consentir, j'aime bien ce mot-là, et puis avec ça, vivre. Et vivre, c'est pas pis-aller, c'est avoir du temps, c'est presque plus de contemplation, plus d'écoute.
Et ça, c'est grâce au groupe, tu crois ?
Pas que, mais le groupe est un lieu où c'est dit, Oui, j'ai envie de dire ça. C'est dit et partagé. Avec des combats, parce que tout le monde n'est pas forcément là-dedans. Mais quand même, il y a une évolution du groupe. Moi, ça m'intéresse.
De vieillir, ça te fait peur, toi ou...
Non, 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 parce que moi, de toute façon, il y en a qui ont peur de vieillir. Non, parce que moi, si tu veux, avant, je m'aimais pas. Tu vois, avant. Moi, je me trouvais, je sais pas comment te dire. Maintenant, je suis plus à l'aise, je suis plus, toi, comme dit Ginette. Tu tout le monde, toi, maintenant. Hey, je dis plus rien. Et avant, je pensais, tu vois, que je ne plaisais pas aux gens. Mais maintenant, je m'aperçois que quand même, enfin, que beaucoup de gens, toi, m'estiment pas. Et là, je suis contente. Je préfère ma vie maintenant que j'avais eu dans le temps.
Super, ça. Ça donne de l'espoir, parce qu'on dit toujours que prendre de l'âge, c'est une catastrophe.
Bah, oui, et bah tout... oui. Puis de toute façon, à chaque fois, quand je dis mon âge, oh, bah, vous ne le faites pas, vous faites plus jeune. Alors, bien sûr, tu te... Hein, ça se groupe. Et oui, non, mais bon. C'est vrai que je suis un paquet de nerfs. Bah, et j'ai toujours été comme ça. Hein, de manière, je ne peux pas changer. Hein. Enfin, j'essaie de changer, mais je ne peux pas.
Et le fait de te sentir apprécié, c'est lié à la maison d'Isis ?
Oui, j'ai beaucoup changé quand même depuis la maison d'Isis, quand même. Ouais. Ah non, parce qu'avant, moi, j'étais très renfermée. Hein. Quand j'étais même avec mon mari. Hein. Moi, je voulais voir personne, j'étais... Non. Il n'y avait que mon mari, c'est tout. Enfin, mes enfants, tout ça, mais je sortais pas. Je me trouvais, je sais pas, j'étais complexée, j'étais... Voilà. Maintenant, j'ai beaucoup changé. Enfin, je vois plus épanouie, quand même, tout ça, tu vois. J'ai évolué, quoi, voilà. Donc, ça m'a fait du bien. Autrement, du temps de mon mari, non. Puis, je sais pas, puis je m'aimais pas.
Et maintenant ?
Maintenant, oui. Mais avant, non. Bon, c'est vrai que tout le monde m'a bien pris. Toi, bon, je suis bien avec eux. Mais ils sont tous très, très, très gentils. Hein. Ah oui, hein. Moi, j'ai été appréciée de tout le monde. Alors, bon, bah, ça fait plaisir quand même.
Je m'appelle Marie-Claude Alamijon. J'ai 72 ans. Je suis une ancienne esthéticienne à la retraite. Voilà, et je suis de Montauban. Maman est décédée depuis 2 mois et ça faisait 3 ans et demi que j'étais avec elle parce que, bon, vu son grand âge, elle avait 95 ans, elle avait besoin de moi. Donc moi, j'avais des petits soucis à mon appartement, donc ça tombait bien. Ça s'est très, très bien passé. Je ne regrette pas du tout, ni pour elle, ni pour moi. J'ai profité d'elle jusqu'au bout. Après, bon, mais c'est la vie, hein. La vie fait qu'elle est partie. Maintenant, il faut que je trouve un logement. Donc j'attends avec impatience que la maison d'Isis nous donne un espoir concret. Et à ce moment-là, je partirai. Autrement, je trouverai un autre appartement.
Tu t'es retrouvée embringuée comment dans l'histoire de la maison d'Isis ?
Alors, la maison d'Isis, comme j'étais esthéticienne, j'avais Ginette comme cliente. Et elle m'a parlé de son projet. Bon, sur le moment, je n'ai pas tellement adhéré, parce que moi, je vivais seule avec ma fille depuis très longtemps. Et puis ça a fait son chemin. C'est vrai que je suis une femme indépendante, mais j'ai besoin des autres. Parce que dans mon métier, j'avais un relationnel humain très important. Et puis j'aime aider les autres, j'aime faire avec les autres certaines choses. Et en fait, c'est ce que j'avais besoin. C'est-à-dire que je me retrouve dans un groupe et où on a le même but, tout en étant très différente, hein, parce qu'on est vraiment très différente. Mais ce projet nous lie quelque part parce que tout le monde ne le fait pas, un projet comme ça. Tout le monde ne le fait pas. Hein. En fait, notre projet, il est simple. Hein. C'est regrouper des personnes dans un même bâtiment pour s'entraider et ne pas avoir des aides autres que nous-mêmes. Jusqu'à maintenant, si on peut rester... seul et s'entraider, c'est notre but, ça.
Et pourquoi c'est si compliqué, alors ?
Eh bien, c'est si compliqué parce que c'est toujours une question d'argent. Moi, j'en ai pas du tout. On a beaucoup d'écarts dans l'association. Les petites retraites, on est deux ou trois comme ça. Et puis après, il y a des personnes qui ont des revenus plus importants. Mais moi, j'ai 1 000 euros par mois de retraite. Je suis la plus basse. J'ai travaillé 42 ans. Et c'est vrai que 26 ans d'artisan, on a une retraite des clopinettes. Donc j'ai 1 000 euros par mois. Donc c'est vrai que je suis même des fois un petit boulet au sein de l'association. Parce que justement, le loyer, il faut qu'il soit allégé. Il faut que je puisse être aidée dans mon loyer. Parce que 1 000 euros par mois, on ne va pas loin. Hein. Parce qu'avec 1 000 euros, je serais obligée quand même de sortir toujours 200 ou 300 euros par mois de plus. Si je veux faire quelque chose, si je veux vivre. Autrement, je ne vis pas. Hein. Je vais au Resto du Cœur et je paye les charges. Ça, ça fait peur des fois. Mais j'ai toujours fait avec des petits moyens, donc je suis habituée. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir aller au resto, au cinéma, faire des petites sorties, des choses comme ça. Voilà, c'est tout.
Est-ce que tu as l'impression de faire de la politique quand tu participes à ce projet ?
Non. Pour moi, se battre pour les personnes âgées, pour moi, ce n'est pas politique, c'est normal. C'est normal. J'aimerais ne pas passer par la politique pour ça. Moi, je dis, tant qu'on n'a pas les clés, je ne veux plus me projeter. Parce que ça fait mal. Hein, moi, mon fonctionnement, il est comme ça. Je ne me projette pas. J'essaye de prendre les choses comme elles sont. S'il faut se battre, on se battra. S'il faut aller pousser une petite gueulante à la mairie ou autre comme ça, moi je serai la première. Hein, parce que c'est vrai qu'à force de ne pas être écoutée, de pas... C'est pénible des fois. On veut un truc tout simple. Et ça, ça leur plaît pas. Parce qu'on rapportera rien. Moi je le ressens comme ça. On n'est pas des femmes qui allons rapporter des sous pour faire travailler les autres ou n'importe quoi. Nous on veut simplement un logement commun. Plus ou moins, rapprochés, si on peut dire.
Et en plus, il y aura du public, je pense, puisque on est 200 en tout, il y a 200 personnes. Demain matin, on distribuera les tote bags avec tous les renseignements à l'intérieur. On aura le badge et les tickets pour les repas.
On descend là ?
Oui,
voilà. On change.
Alors, combien on a ? Un,
deux. Ouais.
Et le petit Léo, il est où ?
Le petit Léo. Oui, Léo, c'est le
chercheur bien-aimé.
Non, c'est on a eu d'identifier les obstacles, c'est ça ?
Oui. À tenter, oui. Tenter d'y voir un peu plus clair dans les difficultés rencontrées. On en dira quelques mots dans le cadre du colloque, parce que l'une des communications est dédiée à cette question cruciale, consiste à savoir à quoi tient l'échec ou le succès des projets d'habitat participatif et solidaire et prenant en compte le vieillissement, tel que celui porté par les dames de la maison d'Isis.
On est toujours 6, 7 à vouloir bouger, mais après...
Tu ne penses pas que le fait que vous soyez moins nombreuses, 6 ou 7 versus 18 au moment du premier projet, ça ne va pas faciliter les choses ?
Peut-être. Ce qu'on espère. On espère par rapport à cet immeuble que ça pourra faciliter les choses et que donc on pourra peut-être nous caser plus facilement. On espère. Mais encore faut-il qu'ils nous reçoivent. Parce que bon, ça commence à bien faire. Quoi. Là, de toute façon, on a demandé un rendez-vous à la préfecture. On a dit que c'était cette année ou jamais, et voilà, on va pas passer des années comme ça, hein, une année à 6.
Ce qui est surprenant au sens de cette saisissant, impressionnant, c'est leur ténacité, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ce projet, elle le porte depuis 2016. Donc ça, c'est une surprise que de voir, en étant admiratif, cette capacité, cette ténacité ou cette persévérance, voilà. En même temps, hier, j'ai discuté dans le cadre du colloque avec tout un tas de gens et on se disait que ce sont des projets qui, de manière quasi systématique, prennent un temps infernal à aboutir, quand ils aboutissent. Moi, j'ai été formé à une discipline qui s'appelle la sociologie, dans laquelle la question qui consiste à savoir à quoi tient l'échec ou le succès des projets ou des innovations, elle est importante. Il y a quand même des éléments qui apparaissent clairement déterminants. Par exemple, le soutien ou le manque de soutien effectif des politiques, des municipalités et des mairies pour l'identification ou le repérage du foncier. avant même la question du financement du terrain, du bâtiment et des travaux, d'abord le foncier, il faut le retrouver, il faut le rendre disponible. Et en plus, bien souvent, les maires sont aussi les présidentes ou les présidents des organismes HLM, c'est-à-dire des bailleurs sociaux. Et ça, ça a été le cas à Montauban. Hein. C'est-à-dire que Madame la maire, en 2016, Madame la maire était aussi Madame la présidente du principal bailleur social, organisme HLM du département. Donc ce rapport-là, il peut être, encore une fois, porteur, il peut apparaître comme un soutien, ou au contraire, d'entrée de jeu, apparaître comme un frein. Peut-être y a-t-il quelque chose de l'ordre du rapport à l'innovation. En fait, je pense là précisément au projet porté par les dames de la maison d'Isis. Pendant les premiers temps, il y avait un certain enthousiasme qui semblait partagé par la plupart des acteurs institutionnels ou professionnels qui étaient impliqués dans le projet. C'était chouette, c'était génial, et tout le monde s'accordait à dire ça. Par contre, après, une fois qu'on rentre dans le dur, si je puis dire, et qu'il s'agit de déployer quelque chose qui n'a jamais été fait, qui est donc un peu innovant, et donc par définition incertain, bon, peut-être que là, tout à coup, on est moins enclin, moins disposé à avancer dans l'affaire. Parce que comme c'est inédit, ça pose des questions, on ne sait pas où on va, on ne sait pas finalement si ça va marcher ou pas. Et là, tout à coup, l'enthousiasme initial, il peut décliner un peu.
Il pleut sur Nantes, donne-moi la main. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Ti-la-la-li-la-la-la-li-la-la-la-la-la-la-la-la. Je ne sais plus après.
Après les paroles,
Barbara.
Elle a l'air. Elle n'a plus les paroles. Tu es d'ici ?
Non, alors moi je suis de Normandie, ancienne parisienne. Et donc je suis là au colloque pour l'association Les Audacieuses et Audacieux, dont le projet, d'ailleurs qui se concrétise à Lyon, c'est d'ouvrir une maison qu'on appelle la maison de la diversité pour LGBT et hétéro-friendly, que je n'appellerai pas maison de retraite, et qui sera ouvert au plus de 55 ans. Voilà. Et Stéphane Sauvé a ce projet parce qu'il a été directeur d'EHPAD et il a vu la discrimination par rapport aux LGBT. Donc il a eu cette idée il y a 5 ans maintenant.
Voilà, donc François Virul de la Maison du Pêcheur à Abbeyfield. Et André.
Bruxelles.
Oui, moi c'est Abbeyfield Belgium et Abbeyfield entre voisins.
Voilà. Donc, c'est les maisons qui existent.
Oui,
c'est
tout à fait. Alors là, en chair et en os, on peut dire.
Et en briques.
C'est avec toi, si tu veux.
Ouais.
Voilà, on va se pousser. Voilà. Je me suis exilée de Bruxelles dans un habitat groupé intergénérationnel qui est à 15 km de Bruxelles.
Voilà. Une autre expérience.
François, raconte un peu à Abbeyfield. Vous sortez d'une expérience anglaise.
Le modèle Abbeyfield est un modèle d'inspiration anglaise. Donc, après la guerre de 40, il y a une série de femmes qui se sont trouvées veuves en Angleterre et à un moment donné, se sont dit « Mais pourquoi est-ce qu'on ne vivrait pas ensemble ? C'est quand même plus sympathique. » Enfin, voilà, très raccourci. Hein.
Romancé, je dirais.
C'est presque romancé.
Je ne le croyais pas, c'était pas si rose que ça.
Ça n'a jamais été
c'était
très
chacun
rose.
Chacun dans son coin,
occupé
à lutter contre la misère.
Oui,
avec les enfants sur le dos.
Ça, c'est Zola, ça.
Et c'était un homme qui s'est occupé de ces femmes.
C'est
et ce
homme...
qu'on ne veut plus même.
Voilà. Donc, ils ont ramené ce modèle en Belgique, ou un petit peu remis à la sauce belge. Et ils ont créé une association il y a 27 ans maintenant, qui s'appelait Abbeyfield, parce que Abbeyfield, c'est le nom de la rue où a été créée la première maison en Angleterre.
Et en plus, l'évolution du projet, c'est qu'on s'est rendu compte que le projet était beaucoup plus ambitieux que cela. Les seniors n'ont pas seulement envie de briser un isolement, mais surtout de garder du lien et plutôt créer du lien. Et donc le pouvoir est aux maisons et pas aux penseurs. Les habitants sont les experts de leur vieillissement.
Prenons l'exemple très concret, Martin Pêcheur, 8 habitants pour le moment, il y a quand même 4 octogénaires. Octogénaire, ça ne veut pas dire qu'on est décroulant. Hein. On est au moins 3 là-dedans qui sont encore en bonne forme et qui faisons des tas de choses. Oui.
Ça conserve.
Ça conserve.
Et alors aussi, on vient de le lire, marcher rapidement, 6 km à l'heure. Oui, parce que moi j'ai 90 ans, mais ça ne se voit pas. Il faut croire en tout.
Non, mais le fait de se retrouver ensemble dans une dynamique participative, ça entretient, ça stimule, ça bouscule aussi un peu de temps en temps.
Et vous avez un avis sur pourquoi la maison d'Isis, ça bute, c'est difficile
Bon, tant qu'on n'a pas modifié un point de vue, on ne peut rien bouger, il n'y a rien qui change.
Et donc, un point de vue, vous voulez dire
sociétal, hein, c'est ouais. Imaginer une autre répartition des richesses, par exemple. Et donc, il va falloir travailler là-dessus. Hein. Mais il y a de l'espoir. Hein. Dans 50 ans, je pense qu'on aura évolué. On y est ?
On est déjà là ?
Si tout le monde descend, on descend.
Ouais, a priori, si tout le monde descend.
Très important hein, de travailler la manière de voir. Si on n'a pas changé ce point de vue, c'est fichu. Là où on réfléchit sur cette problématique de savoir comment vivre ensemble et quels sont les leviers pour modifier, à partir de ce moment-là, on aura une force beaucoup plus grande. Il faut une visibilité, il faut une parole et il faut un lien. Voilà.
Pour vous présenter Rapsodia, tout le monde connaît Rapsodia ou presque, donc je vais aller vite. Alors, on est parti de l'idée que, effectivement, de plus en plus de citoyens, de citoyennes surtout, s'engagent dans des projets d'habitat alternatif pour essayer d'habiter autrement parce que, évidemment, on veut vieillir autrement. Hein. Donc éviter rester chez soi, bien sûr, mais pas seul, hein, donc entouré avec d'autres, tisser des liens de voisinage, de proximité, et puis éviter peut-être, en tout cas le plus longtemps possible, le fameux EHPAD, hein, repoussoir dans lequel on ne souhaite pas aller. Alors il y a aussi les résidences-services, mais on va aller vite là-dessus. Voilà, c'est un peu cher et puis on n'a pas forcément envie d'aller là-dedans. C'est pas parce qu'on est retraité, on a envie d'aller au Club Med toute l'année. Enfin, voilà, bref. Du coup, habitat alternatif. Alors on parle d'habitat inclusif, participatif, peu importe, effectivement, peu importe, partagé. Des formes alternatives d'habitat. Qu'est-ce qui se passe dans ces formes alternatives d'habitat? Qu'est-ce qu'on y fait? Quels liens on y tisse? Comment on habite ensemble?
On se partagera.
Vous allez intervenir sur quoi?
Alors, le matin, c'est sur la maison d'Isis, parcours semé d'embûches. Tous nos échecs successifs et toutes nos galères. On va expliquer ce qui s'est passé. Et l'après-midi, c'est comment pratiquer l'entraide hors les murs, puisqu'on n'a pas encore comment, en attendant d'avoir des murs, ce qu'on fait et ce qu'on met en place.
Est-ce que vous en êtes, là,
alors, on a fait remonter au ministère du Logement et ils ont fait redescendre quelque chose au niveau de la préfecture et on attend que la préfecture fasse une réunion avec les bailleurs sociaux. De toute façon, on continue. Hein. Ceux qui arrivent aussi à faire quelque chose, c'est ceux qui font une coopérative. Donc, ce sont les personnes qui investissent et complétées par des prêts. Et nous, c'est pas possible. On n'est que deux à être propriétaires, deux ou trois. Et les autres sont toutes locataires et ont des petits revenus, donc on ne peut pas se lancer dans de l'investissement. Et puis maintenant, c'est vrai que depuis 2016, on a commencé, on commence à fatiguer, et on ne se voit pas mener un projet comme ça non plus. C'est trop compliqué maintenant. Il y a l'usure et il y a la fatigue qui s'est installée aussi. Comme tout le monde veut être locataire, il nous faut des logements sociaux. Mais pas que. Alors c'est ce que nous rétorque la directrice que j'ai vue il n'y a pas longtemps du bailleur social. Elle me dit, moi je veux bien vous réserver une cage d'escalier pour vous, dans un ensemble, mais vous allez avoir le problème de la CAL, c'est-à-dire les commissions d'attribution des logements. Et quand je dis, est-ce que vous ne pouvez pas nous louer à nous, à l'association, elle dit, il faut que vous ayez l'agrément de la préfecture. Donc si on peut avoir un contact avec la préfecture, si la préfecture veut bien nous aider à obtenir cet agrément, comme le font d'autres associations, pour nous, ça serait la solution.
Oui. C'est le ticket bleu.
Oui.
On vous propose de prendre les assiettes, les couverts.
Sauf que, bon, avec le contexte actuel, avec la mairie, le département, comme on n'arrive pas à faire aboutir le projet, pour le moment, on va essayer de voir si on peut, les plus pressés, les loger, avoir quelques logements dans un même bâtiment. Ce n'est pas vraiment le projet initial, c'est en attendant. Quand on parle des plus pressés, c'est... Bon, il y en a une, c'est l'âge. Elle a 84 ans, donc elle ne veut pas attendre. Elle a un escalier, elle a un étage chez elle. Et elle dit, je ne vais pas pouvoir rester là. Après, on en a une qui est malvoyante. Elle aussi, elle commence à se dire, maintenant, je ne vais pas pouvoir rechanger. Bien sûr, si on avait un projet immédiatement, elle pourrait repartir dans quelque chose. Mais là, elle a ses repères. Et, oui, et si on la change de repère, elle va être perdue. Elle ne va pas forcément pouvoir s'adapter. Ensuite, il y a la troisième qui a été obligée de vendre sa maison. Et pour pas qu'elle se retrouve le bec dans l'eau, en attendant, j'ai aménagé le rez-de-chaussée de ma maison. On est toutes les deux. Ce qui fait qu'on a quand même un peu expérimenté le fait d'être dans un habitat groupé. Voilà.
Partagé.
Partagé, voilà. Ce n'est pas une colocation puisqu'on a chacune notre appartement. Mais on voit l'avantage de ne pas être toute seule chez nous. Voilà.
Tu vis comment ? Tu vis seul ?
Moi, je vis avec ma compagne. On commence à être vieux tous les deux. Et la question, c'est qui va mourir le premier ? Sachant que j'ai la même différence d'âge avec ma compagne que la différence d'espérance de vie. C'est-à-dire que j'ai 78 et elle a 84. Les hommes et les femmes, ils ont 6 ans. Donc on peut espérer mourir ensemble, en même temps. Bon. Thérèse, elle me dit, moi, ça me va très bien, je suis chez toi. Mais si tu meurs, je retourne à Paris. Moi, je dis, si je suis tout seul, pourquoi pas rentrer dans un domicile collectif ? Moi, je sais que statistiquement, comme homme, j'ai toutes les chances de mourir en bonne santé. Parce que les statistiques de santé publique disent qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui cartonnent. Vous nous survivez 6 ans en isolement social, avec des ressources faibles et avec une durée de vie en incapacité lourde 2 fois supérieure à celle des hommes. Grosso modo, la représentation sociale de la fin de vie, elle est dramatique en France. Or, il y a des fins de vie difficiles, elles sont minoritaires. La question de la fin de vie difficile, c'est la détérioration psychique. On a dans l'idée en France que c'est aux familles de faire le boulot. D'où ça sort ça ? Et puis c'est les femmes qui se commettent le boulot. Aujourd'hui, les politiques publiques de maintien de domicile, elles reposent sur les femmes, sur les conjointes, sur les filles, les belles-filles et les petites-filles. Bon, j'étais directeur de service de maintien à domicile. Donc effectivement, j'ai quand même eu le temps d'y réfléchir. Le virage domiciliaire, il appartient pas aux EHPAD. Le virage domiciliaire, il appartient au domicile. Tu comprends ? 450 millions, combien pour le domicile ? Sans doute 200 millions. Et après, on te dit qu'on favorise le domicile. Eh bien, on nous propose des cons. C'est tout. Regarde les chiffres des politiques publiques. Depuis 30 ans, on a financé prioritairement les EHPAD. J'ai tous les chiffres des politiques publiques.
Allez, on démarre. Alors, pour celles et ceux qui étaient là hier, vous l'avez vu, la journée d'hier, c'était une journée qui portait essentiellement sur des questions de méthode, où un certain nombre d'intervenants, d'intervenantes ont pris la parole pour parler de ce qu'ils ont vécu à travers cette recherche-action participative. La journée d'aujourd'hui, elle est sous un signe un petit peu différent, puisqu'on va parler plutôt du fond, habiter de manière alternative dans les vieillesses. Et c'est là-dessus que vont se pencher les communications qui vont vous être délivrées. On va commencer avec une première communication. Vous voyez, ils sont déjà installés, ils sont prêts. Léo Touzet, sociologue chargé de recherche à l'ARCEA à Toulouse, et Françoise Dodorico et Ginette Pandaras, qui sont membres de la Maison d'Isis à Montauban, et qui vont nous parler de leur chemin semé d'embûches pour leur projet. J'en dis pas plus, je vous laisse commencer avec cette première communication. Merci à vous.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, la Maison d'Isis a été créée en 2016. On a déposé les statuts le 1er avril. Nous avons d'abord rédigé une charte fondatrice qui a été adoptée en début 2017 afin de bien vieillir ensemble dans un environnement choisi.
Moi, j'étais très timide, très réservée. Jamais j'aurais cru pouvoir être présidente d'une association, parler en public, faire tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, quoi. Ça s'est fait petit à petit. Mais c'est parce qu'il y avait ce projet de la Maison d'Isis qui me tenait à cœur. Sinon, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Bon, on a accompagné nos parents. Et puis voilà, on les a mis en maison de retraite. Quelquefois, on les a accompagnés en maison de retraite. Et bon, avec souvent de la culpabilité avec. Et on ne voudrait pas laisser ça à nos enfants. Quand il faut vider une maison, quand il faut... Voilà, c'est difficile. Et pour eux, savoir qu'on se prend en charge et qu'on assure et qu'on prévoit ce qu'on va devenir, c'est un soulagement pour les enfants aussi. Voilà. Et puis bon, c'est vrai que par rapport aux maisons de retraite où on est infantilisé, où on n'assume plus rien, nous on veut essayer de rester justement responsable et autonome, choisir la façon de vieillir et même de mourir, quoi.
Je m'appelle Madeleine Carenco. Je vais avoir 75 ans.
Qu'est-ce que c'est que vieillir ? Et est-ce que c'est que des choses négatives ?
Ah non, pas du tout. Je pense personnellement, c'est coudre ensemble les divers morceaux de sa vie. J'ai tous les âges. Je crois que être vieux, c'est ça. C'est avoir tous les âges en soi. C'est avoir l'émerveillement de l'enfant. Et quelque chose s'ouvre. C'est la joie. Et dans la maison d'Isis, il y a cette joie. Et je pense à, dans Lettres de prison, les mots d'Antonio Gramsci, le pessimisme de la pensée doit nourrir l'optimisme de l'action.
Et est-ce que ça fait partie de l'optimisme de l'action de créer la maison d'Isis ?
Je pense. C'est-à-dire, je comprends pleinement la conclusion du mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Il faut être un Sisyphe heureux. C'est-à-dire qu'il faut accepter de monter la pierre comme on le peut. Mais je sais qu'elle redescendra toujours. Il n'y a pas de lendemain qui chante. Il n'y a que ce que l'on fabrique jour après jour. Et ça, c'est très dur de l'accepter, de continuer le chemin. C'est pour ça que je parlais de l'acceptation de tous les deuils.
C'est une façon de faire de la politique, ça, quand même.
Oui, la politique, c'est polis, la cité grecque, qui d'ailleurs n'exerçait pas la démocratie, puisque les femmes et les esclaves en étaient exclus. Sauf Épicure, qui recevait à ses banquets philosophiques les femmes et les esclaves. Mais moi, en participant à la maison d'Isis, en partageant les vêtements, en faisant... Bon, c'est la politique au quotidien. Voilà. Moi, je demeure fidèle à l'association. Et puis aussi, j'avoue que là, je le vois en 6 ans, hein, je suis fatiguée. Moralement, je suis très fatiguée. Mais ça, c'est la prise de conscience de beaucoup de choses.
Tu veux dire plus le courage de déménager ?
Voilà, c'est ça aussi. Quand le président obtint enfin son ticket, le départ pour Hermont-Aubonne était prévu 30 minutes plus tard. Le stade quoi ? Anal ? Le stade anal ? Je t'en prie, ce n'est pas le moment ! Pardon, sans déconner, t'es où ? Je viens de quitter la Garenne Colombe. Je vais bientôt être à Argenteuil.
Moi, maintenant, je ne peux plus lire, j'y vois plus. Alors, je suis un petit peu... C'est difficile parce qu'elles me disent, il y a tel bouquin. Ah, je ne peux plus le lire normalement. Moi, d'abord, ça m'apporte cette lecture que je ne peux plus avoir.
Moi, je n'aime pas lire. J'ai appris ma petite sœur à lire. Et depuis, moi, je ne sais pas, j'aime pas. Tu vois. Mais j'aime bien qu'on me raconte des histoires.
Les moments de lecture à voix haute, ça me donne le sens plus encore de la fraternité du moment partagé. Les mots deviennent une rencontre à plusieurs.
C'est canto, canto pas per you, canto per la
Moi, il faut que je déménage à la fin 2023.
Et vous m'hébergerez.
Voilà. J'ai une chambre qui se libère.
Voilà. Oui, mais même si on n'arrive pas à avoir l'agrément de la préfecture, je pense qu'il y en a quand même plusieurs, voilà, au moins les plus pressés, ouais, qui pourront y aller. Ouais. J'ai envoyé ce matin la copie du courrier à notre président du conseil départemental. Et je lui ai rappelé que nous étions pressés par le temps et que ça serait bien qu'il y ait quelque chose qui démarre avant la fin de l'année.
Oui. Attention, les pizzas arrivent.
Alors, il y a une pizza végétarienne et une pizza royale.
Alors là, vous y croyez toutes ?
Ouais. Moi, j'y crois cette fois-ci.
Bon, oui.
Mais si, franchement, si ça se passe pas, là, je démissionne.
Alors,
ils se mouillent pas. Ils nous donnent des appartements. Il n'y a pas de salle commune, il n'y a rien, donc ils se mouillent pas. Hein.
Moi, j'espérais, parce que là, c'est...
Moi, je suis comme Saint-Thomas. Je croirais quand je le verrai. Pour l'instant, je suis...
C'est la VG, ça.
Très dubitative.
Eh bien, nous, si on n'arrive pas à le faire, ce projet, on va militer pour que d'autres, peut-être un jour, puissent faire ce genre de projet.
Voilà.
Et
voilà.
Du coup, on est parti à contacter les médias pour faire connaître ce qui nous arrivait, quoi. En expliquant qu'il y a une loi qui est sortie en 2014 sur l'habitat participatif, que cette loi elle n'a pas été suivie des faits, qu'il n'y a pas les décrets, il manque plein de choses. Et du coup, on se retrouve dans des situations où on ne peut pas mettre en place ces choses-là, en tout cas à Montauban. Donc on a dit, on va partir sur du militantisme parce qu'on est un groupe et qu'on a envie de continuer quelque chose ensemble, qu'on a créé quelque chose et qu'on ne veut pas laisser tomber.
L'article qui est paru dans la Dépêche, qui avait été intitulé « La maison d'Isis tombe mais ne meurt pas ».
Oui.
Et c'est Nadia qui avait fait un article dans Ciné Mensuel aussi.
Oui. Et ça, on n'a pas manqué de contact. Ce qui nous a manqué, c'était les décideurs. Ça ne les a pas ébranlés pour autant.
Non, absolument.
C'est ça, moi, que
absolument.
Je suis
Mais c'est ça qui est quand même bizarre. Hein.
Nous sommes les dames d'Isis, décidées à vieillir ensemble dans un habitat partagé. Nous avons ce projet en tête depuis belle lurette et personne ne nous empêchera de penser que cela arrive un jour. Nous avons bravé les tempêtes et alors après j'ai pas la suite.
Oh là là, Madeleine, au café mémoire, c'est... Le...
J'exhibe ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous en prie avec mes bulles. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Les malades sont prohibés. On les jette dans les fossés. À moi qui n'apporte du blé, de la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli.
C'était Les Dames d'Isis ou Comment échapper à l'EHPAD. Merci à Ginette Pondaras, Françoise Odorico, Huguette Estripeau, Madeleine Carinco, Marie-Claude Alamijon, Michel Cavaillé, Sophie Drouot, Sylviane Becher, Marie-Luce Déo, Babette Georges, Marie-Annick Glaise.
J'ai d'autres projets, vous voyez.
Une partie du tournage a eu lieu lors du colloque Rhapsodie à Nantes où nous avons rencontré les habitants d'Abbeville, Belgique, François Verlust et André Domaine, les futurs habitants des Audacieux et des Audacieuses, ainsi que les chercheurs Léo Touzé, Anne Labitte, Bernard Hennuyer. Merci à Nadia Charvet, sans qui cette rencontre n'aurait pas eu lieu. Musique, Dominique Massa. Prise de son, Romain Lequinz, Geoffrey Marianne. Mixage, Nadège Antonini. Un documentaire signé Stéphane Mercurio, réalisé par Laure-Hélène Plancher. L'expérience, Aurélie Charon, Inès Duperron.